VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Stratégie américaine en Afghanistan, le Pakistan accusé par le président américain Donald Trump d'abriter des groupes rebelles déstabilisant son voisin afghan, s'est défendu ce mardi en soulignant son désir de paix en Afghanistan. Pour sa part, le président afghan Ashraf Ghani se félicite de la décision de Donald Trump de renoncer à tout retrait américain du territoire afghan. Une nouvelle stratégie de Washington pour l'Afghanistan et l'Asie du Sud, présentée par le président Trump dans un discours à la Nation hier soir. Jean-Roger Bion.
Les Américains, a dit M. Trump, sont fatigués de l'absence de victoire dans la plus longue guerre de l'histoire américaine. Mais a-t-il poursuivi, un retrait précipité des troupes américaines créerait un vide que combleraient rapidement les terroristes.
We must achieve an honorable and enduring outcome worthy of the enormous price that so many have paid.
Pour le président Trump, les États-Unis doivent chercher un résultat honorable et durable digne des sacrifices extraordinaires qui ont été consentis, particulièrement les vies sacrifiées. Selon lui, les menaces sécuritaires en Afghanistan et généralement dans la région d'Asie du Sud sont immenses. Cette nouvelle stratégie, a expliqué M. Trump, inclura une approche régionale pour l'Asie du Sud, impliquant pour les États-Unis la recherche de relations améliorées avec l'Inde. Quant au Pakistan, Washington va adopter une position plus dure vis-à-vis de ce pays qu'il a accusé d'abriter des agents du chaos, de la violence et de la terreur. Le président Trump n'a pas spécifié une augmentation des niveaux de troupes en Afghanistan, déclarant « Nous ne parlerons pas du nombre de soldats. Les ennemis de l'Amérique ne doivent jamais connaître nos projets. »
Afrique maintenant, en Angola, plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain mercredi pour élire leur nouveau président dans un pays en pleine crise économique à cause de la chute du prix du pétrole. Le président sortant, José Eduardo dos Santos, âgé de 74 ans et au pouvoir depuis 38 ans, n'est pas candidat à sa propre succession. João Lourenço, un ancien général de 63 ans, défendra les couleurs du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, dont dos Santos conserve la présidence. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, ancien mouvement rebelle, a annoncé une semaine avant le scrutin qu'elle formerait une coalition avec les partis de l'opposition. Au Gabon, des membres de l'opposition proche de Jean Ping, lequel se proclame toujours le président élu, ont fait hier leur entrée au gouvernement à la suite de légers remaniements. Le président Omar Bongo a aussi restauré le poste de vice-président Eric Manirakiza.
La vice-présidence de la République revient à l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou. Mbemezu Obiang, l'ex-directeur de campagne de Jean Ping, a hérité du Conseil économique et social. Estelle Ondo, déjà exclue de l'Union nationale, a été nommée au transport. Patrick Eyogo Ezang, à l'eau et énergie, et doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Le Premier ministre n'a pas changé, de même que les ministres de la Communication et porte-parole, des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, ainsi que l'économie, considérés comme les poids lourds de l'équipe Bongo. Le gouvernement compte 38 membres contre 40 dans le précédent. Il traduit les conclusions du dialogue politique rejeté par Jean Ping, qui se proclame toujours le président élu. Vendredi, son appel à la désobéissance civile n'a pas été suivi. Des élections législatives doivent avoir lieu en 2018.
RDC, la diaspora du Congo démocratique se mobilise pour sortir de l'impasse politique. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré et il n'y a pas d'élection en vue. Un directoire national de transition sans Kabila, le DNT, a donc été mis en place. Et une conférence a eu lieu à Lille, dans le nord de la France, pour discuter des mesures d'urgence pendant cette transition. On écoute Mike Justin Kabondi, membre du directoire.
Le message, il est très clair. La population est décidée, déterminée, parce qu'il y a l'inconstitutionnalité. Les institutions sont caduques. La présidence, le mandat a été déchu. Le Parlement a été expiré depuis 10 ans. Les gouverneurs sont expirés. Mais dans quel pays on peut vraiment soutenir une population avec des institutions caduques? Donc le pouvoir, il est dans la rue. Donc le DNT, nous sommes décidés de venir au pouvoir par tous les moyens. Mais nous sommes un pouvoir déjà pacifique, ouvert à toute discussion avec tous nos compatriotes, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre. Nous allons collaborer avec tous les pays que moi j'appelle les amis du Congo pour que ce pays redémarre au niveau économique et que son peuple soit honoré au niveau social, degré ou de force il faudra que Kabila parte et toute la communauté internationale nous soutiennent dans cette démarche. Et maintenant, il est grand temps pour lui de dire oui, il faut que je parte paisiblement ou alors ça sera la force.
Marc Justin Kabondi, membre du directeur national de transition sans Kabila.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, des milliers de Congolais originaires du Poule, région proche de la capitale, fuient les violences qui y font rage pour chercher refuge à Brazzaville. Ils vivent dans des conditions très difficiles, nous dit notre correspondant sur place, Nguela Ngusu.
Cela fait déjà beaucoup de mois que les personnes fuyant la guerre dans le Poule arrivent à Brazzaville. Elles laissent derrière elles des villages en ruine. Elisabeth Loukou vient de Mbanzandunga district.
Je suis paralytique. En fuyant le village, j'ai abandonné mon tricycle en chemin. Là, je ne peux pas me promener pour chercher de quoi manger. Je suis quand même une personne. On souffre et on est sans assistance.
André Mayela, du village Kimpanzu 1, se retrouve à Brazzaville avec toute sa famille après avoir tout perdu.
C'est en pleine nuit que les ninjas sont venus nous faire sortir de nos maisons. Quelques temps après, le village a été brûlé. Nous avons fui dans les forêts avant de regagner Brazzaville où un parent nous héberge.
À Brazzaville où ils sont arrivés, ils doivent se débrouiller pour survivre. L'assistance humanitaire des pouvoirs publics s'est fait attendre. Les agences des Nations Unies peinent à collecter les fonds. Antoinette Bavuizibio de Kimpanzu 1 raconte sa misère à Brazzaville.
Depuis notre arrivée ici à Brazzaville, nous vivons difficilement. Il faut vendre du bois de chauffe. Nous ne gagnons malheureusement pas grand-chose pour nourrir la famille. Nous souffrons.
Les familles d'accueil n'en peuvent plus et appellent à l'aide.
Surtout le problème de tous les jours, il faut qu'il y ait à manger. Là, c'est les autres dorment sur terre. Hein. Regardez ma maison n'est pas encore finie. Bon. Hein. Vraiment, on demande une aide, surtout dans Brazzaville et surtout le Poule.
Selon la société civile, les sinistrés du Poule arrivent toujours. Gaspard Mienantima organise leur enregistrement dans les quartiers sud de Brazzaville.
Nous sommes arrivés aux environs de 2500 que nous avons pu recenser. Et là, on ne recensait que des grandes personnes. La majorité vit dans le 8e arrondissement Madibou. Et ils continuent à venir. Tout ça, c'est pénible, c'est infernal.
Un comité d'ONG a lancé un SOS à la communauté nationale afin de venir en aide à ces personnes. Docteur Alex Nzaba.
Nous avons pris contact avec les communautés catholiques, protestantes, musulmanes, les églises de réveil, la communauté kimbanguiste, la communauté salutiste, la communauté ngundiste, les comités de marché de Brazzaville, les entreprises privées, de telle sorte qu'ils puissent nous accompagner dans la recherche de solutions envers ces sinistrés, puisque le gouvernement a déclaré faillite.
Le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le pasteur Ntumi et ses miliciens ninjas à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du Poule. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Afrique du Nord, indignation au Maroc. Une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes agresser sexuellement une fille dans un bus. Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, ne cache pas sa colère.
Le Maroc va réviser sa politique en ce qui concerne la peine de mort et qu'on va commencer à prononcer des peines de mort parce qu'en matière de crimes de cette nature, l'amitié internationale et son abolition de la peine capitale, il serait mieux de nous foutre la paix avec. Hein. Un violeur dans un lieu public et collectivement, c'est quelqu'un qui n'a respect ni de sa société, ni de la femme, ni du sexe, ni des citoyens. La vie est un droit, le respect de la personne humaine est un droit, le respect de la femme est un droit. Le respect de la vie sexuelle d'une femme est un droit. Le viol est un crime. Le viol collectif, c'est un crime avec circonstances aggravantes. Le viol collectif dans un lieu public, c'est un crime avec deux circonstances aggravantes. Et à un moment donné, il faut dire arrêt.
Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme au Maroc. Et pour terminer, l'Iran pourrait reprendre rapidement sa production d'uranium hautement enrichi si les États-Unis quittaient l'accord nucléaire. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.